Bonjour Stéphanie.
Bonjour Floris.
Alors Stéphanie de la société Néopal.
Absolument.
Très bien. Je te souhaite la bienvenue donc aujourd'hui dans notre émission. Aujourd'hui c'est la fête de la radio et nous allons parler de Néopal. Alors pour ceux qui nous écoutent, Néopal, de quoi s'agit-il ?
Alors j'aurais bien voulu vous le faire en chantant et en dansant comme ces dames qui viennent de passer et qui étaient vraiment très joyeuses. Bon, c'est un peu sérieux. Néopal, c'est une société qui a été créée il n'y a pas très longtemps, qui a fêté son anniversaire. C'est une entreprise familiale qui s'est préoccupée principalement des petites structures, soit les associations, soit les entreprises individuelles, y compris les auto-entrepreneurs. En fait, on a identifié un besoin qui était un besoin d'accompagnement dans la vie de ces structures, c'est-à-dire depuis la création, c'est-à-dire que parfois, il y a des initiatives, des envies de créer soit une petite entreprise, soit une association, et en fait, on ne sait pas par quel bout commencer. C'est très administratif, hein, on est en France, il y a beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de démarches à faire, et donc nous, on est aux côtés des créateurs. Créateur d'assaut, créateur d'entreprise individuelle et tout au long de la vie de l'entreprise ou de l'association.
Très bien. Donc, alors, on peut dire que Néopal, une nouvelle entreprise qui accompagne les associations et les entreprises.
Et les entreprises individuelles.
Les entreprises individuelles.
Voilà, donc. De petite taille.
D'accord.
Tout à fait.
Alors, quel est votre travail au quotidien ? Est-ce que vous voulez qu'on parle d'abord des entreprises ou qu'on scinde les deux ou en même temps ?
Ben, peu importe. En D'accord. fait, c'est vrai que les univers sont différents. Alors, si on prend les petites entreprises, il y a toujours un projet au départ. Alors ça, c'est commun aux deux univers. Il y a toujours un projet au départ. Quelqu'un qui a une envie qui germe, qui prend peut-être parfois des années en disant « j'aimerais me lancer, j'aimerais créer ma propre entreprise. J'ai un savoir-faire, j'ai une âme d'artisan, j'ai une âme de commerçant ou j'ai des compétences aussi pour des métiers libéraux, par exemple, et j'hésite à me lancer. » Donc, ils font appel à nous. Alors, je précise quand même qu'il existe des structures qui permettent aussi d'accompagner les créateurs d'associations ou de structures et qui sont financées par l'État et ce sont des services gratuits. Et je pense que la première chose à faire, c'est déjà de se renseigner si on peut se rapprocher de ces structures qui, voilà, sont subventionnées et qui aident. Nous, c'est une société. Donc, forcément, tous nos services sont facturés. Hein. Donc, nous écoutons le projet. Et à partir du moment où, ça y est, nous avons cerné le projet, nous allons faire les démarches de création de l'entreprise ou de création de l'association avec une aide à la rédaction des statuts, du procès-verbal, de l'Assemblée générale et de tout ce qu'il faut. Là, je suis en phase 1.
D'accord. Alors, oui, c'est bien de préciser la phase 1. Alors, donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une idée. Voilà, j'ai une idée. Je voudrais monter une entreprise ou faire un projet ou quelque chose. Mais c'est pas très clair dans ma tête, donc je peux venir vers Néopal, c'est bien ça.
Il bénéficiera d'un entretien téléphonique qui permettra pour lui de verbaliser et du coup de mettre du clair dans ses idées. Et ensemble, on verra s'il est prêt, si c'est le bon moment, si c'est le bon projet. Parfois oui, finalement j'ai envie de dire le fruit est mûr. Donc, on peut envoyer. Ou alors, parfois, c'est un petit peu trop tôt. C'était juste le besoin d'une étape de réflexion. Vous voyez, on monte une marche, on avance d'un pas, mais il est encore trop tôt. Donc, il faut laisser après le temps de maturation.
D'accord. Encore trop tôt, ça voudrait dire que la personne a envie de faire quelque chose, mais c'est pas encore très clair ou très défini ce qu'elle veut faire.
Oui, ou alors c'est pas le bon moment. D'accord. Parce que un projet de création, c'est vraiment, c'est pas du compulsif, hein. C'est pas un matin on se lève, je veux créer, puis le lendemain on a son entreprise. C'est quelque chose que l'on mûrit. Parce que ça engendre des conséquences familiales, par exemple. Donc on a des cas où des personnes qui vont démissionner de leur emploi pour devenir entrepreneurs. Et donc il y a des risques aussi. Quand on est entrepreneur, on n'a pas la sécurité de l'emploi. Donc des fois, c'est un petit peu trop tôt dans une histoire familiale ou dans une histoire personnelle où on va attendre d'avoir des économies pour le faire. Donc voilà, la temporalité de la création d'entreprise, elle est...
Variable.
Voilà, elle est variable.
Ça peut arriver que quelqu'un et t'as envie de changer d'emploi et que ils prévoient de démissionner et ils font appel à vous pour les accompagner dans cette phase entre la démission et la reconstruction d'un nouveau projet?
Oui, bien sûr. Ah oui, 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 tout à fait. Mais on a, je vais vous dire, on a tous les cas de figure. D'accord. On a des personnes qui sont, par exemple, de la fonction publique, qui demandent une disponibilité pour que pendant cette année-là, ils se laissent le temps de réfléchir à leur projet de création. On a des salariés qui démissionnent, mais pas de manière,
pas d'un seul coup comme ça, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, ils pèsent quand même le pour et le contre, ils, oui, ils réfléchissent un petit peu en profondeur pour, oui, voir la faisabilité de la chose. Oui. Parce que, oui, s'ils travaillent et ils veulent changer ou se réorienter, je pense bien que ça se fait pas d'un seul coup comme ça.
Non. Il y en a qui vont garder une activité salariée à temps partiel, qui vont commencer en parallèle leur activité et qui ne lâcheront le salariat que lorsque l'activité sera déjà bien lucrative. Donc on a vraiment, vraiment tous les cas de figure.
Et donc une phase d'accompagnement et de conseil aussi, on peut dire comme ça?
Eh bien écoutez, nous, en ce qui nous concerne, on ne peut pas, comme je vous l'ai dit, l'accompagnement, il est payant.
Oui.
Donc, il faut que les personnes aient la possibilité de se faire accompagner. Mais à minima, on a au moins un entretien téléphonique avec eux pour leur donner des clés.
C'est l'entretien téléphonique, que c'est à partir de là que tout commence, en fait.
Voilà, c'est ça.
D'accord. On a parlé de la phase 1 tout à l'heure.
Oui,
on va
de la création.
On va parler de la phase 2. Alors,
voilà.
C'est quoi,
alors,
cette phase 2?
La création, j'ai envie de partager avec vous que ce sont vraiment des belles histoires. Hein. Oui. On voit, parce que c'est des rêves de créer. Et quand ça y est, l'entreprise est créée, c'est du bonheur, hein. C'est du bonheur pour celui qui devient chef d'entreprise, qui l'a attendu depuis longtemps. Et ça, vraiment, je le partage avec vous parce que c'est un peu notre fibre opale.
Bah, en fait, j'allais dire, madame, rappelez-moi votre prénom.
Baronne.
Baronne, Stéphanie. Ah oui. J'allais dire, Stéphanie, juste à vous écouter. Eh ben, en fait, oui, on ressent justement que vous accompagnez les gens, vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et oui, vous êtes témoin, vous êtes là quand il y a le changement, vous êtes là quand il y a la traversée, et justement, c'est la création de rêves.
C'est un aboutissement,
oui. Oui.
Et puis, c'est quelque chose que l'on a vécu nous-mêmes. Je dis nous parce que c'est une entreprise familiale, hein, que nous avons ouverte avec ma belle-fille. Nous-mêmes, on est passé par là. Nous-mêmes, on a eu ce rêve pendant plusieurs années qu'on a réussi à réaliser. Et donc, on sait ce que c'est le jour où on reçoit son papier là, avec son numéro de Siret. Ouais. Donc, ce bonheur, on le partage avec nos clients. Et on est vraiment au cœur des familles. Hein. Il y a les enfants autour. Enfin, ça se fête. C'est vraiment très agréable.
Oui, effectivement, justement, Néopale, cette société, en fait, on accompagne l'humain dans ses émotions, dans ses moments forts de vie, en début de projet, au milieu, et vous fêtez avec eux quand ça marche très bien.
C'est ça. Alors la phase 2, c'est cette fois-ci, ça y est, l'entreprise, elle est constituée. Certains volent de leurs propres ailes. Sont tout à fait équipés, souvent d'ailleurs dans les entreprises, là je suis vraiment ciblée entreprise, hein, je fais focus dessus, souvent on a une femme conjointe collaboratrice par exemple qui va gérer la partie administrative, mais parfois certains entrepreneurs nous disent j'ai une phobie administrative, les papiers, classer mes petites factures, tout ça, c'est horrible pour moi, je ne comprends rien. Je reçois des courriers qui sont complètement obscurs. Est-ce que finalement vous pourriez être à mes côtés aussi pour du secrétariat externalisé ou de la gestion administrative externalisée? C'est exactement comme si vous aviez une secrétaire ou une assistante de direction, mais au lieu de l'avoir à vos côtés, elle est en extérieur puisqu'on travaille à distance. Et puis, c'est plus léger que d'embaucher quelqu'un parce qu'on peut se défaire assez rapidement l'un de l'autre.
Vous rencontrez souvent des futurs entrepreneurs qui d'emblée vous disent que voilà, j'ai une entreprise à créer, mais toute la partie gestion administrative, c'est déjà compliqué, et qu'ils veulent se défaire de ça dès le départ.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est presque tous.
C'est presque immédiat. C'est presque tout le monde.
C'est presque tous, en fait.
Oui. Oui, mais alors, pourquoi? Quelle est la difficulté dans cette partie administrative?
Parce que, d'abord, l'administratif, il faut le dire, c'est un métier. C'est un vrai métier. C'est-à-dire que ça s'apprend. C'est un langage. Et parfois, comme je vous disais, c'est très nébuleux. C'est-à-dire quand on reçoit un courrier des impôts avec des délais, avec un certain langage, avec des sigles ou des choses comme ça, ou l'URSSAF, ça peut être effrayant quand on n'est pas habitué à ces démarches. Et puis ça prend un temps fou.
Oui. Alors moi j'ai envie de vous poser une question que j'entends souvent. Il y a beaucoup de difficultés de dépôt de bilan des entreprises. Est-ce qu'on pourrait dire que les difficultés que les entreprises rencontrent, qu'elles ne peuvent pas surmonter, viennent justement dans ce que vous disiez à l'instant, c'est que la partie administrative, le langage, c'est un domaine, c'est un métier et qu'il faudrait peut-être plus se former pour être à l'aise dans toutes les obligations qui arrivent au cours de la vie de l'entreprise.
Alors, soit on se forme, si on en a envie,
et puis
c'est un peu un profil administratif. Hein. On ne fait pas des carrières administratives pour rien, c'est parce qu'on a le profil pour. Ou on se fait accompagner. Voilà, soit on se forme, soit on se fait accompagner.
D'accord.
Mais effectivement, les dépôts de bilan, comme on dit, hein, de ces entreprises, ils peuvent être liés à moi, j'identifie trois raisons. La première raison, ça va être effectivement un aspect administratif, c'est-à-dire que on a reçu un courrier qu'on n'a pas compris, donc on l'a mis de côté, un peu l'autruche, quoi. Ou on a raté un délai, ou on s'est laissé dépasser parce que quand on est sur le terrain, si vous voulez, nos clients, ce sont des artisans, des commerçants, donc ils ont beaucoup de travail. Quand ils rentrent le soir à la maison, ils sont souvent épuisés. Le week-end, ils ont aussi leur vie familiale, et se remettre le nez dans la compta, dans les papiers, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Et donc, ils ont tendance à dire je ferai plus tard. Mmh. Et le plus tard, parfois, il n'arrive jamais. Donc ça, c'est le premier problème qui fait que des fois, on est appelé par des entreprises qui ont déjà énormément de dettes parce que, ben voilà, ils n'ont pas déclaré à temps, ils n'ont pas vu les seuils. Il y a des majorations qui se sont rajoutées là-dessus. Puis au bout d'un moment, ils reçoivent la lettre de mise en demeure. Donc ça peut être ça. Ça peut être le côté communication. C'est-à-dire un entrepreneur qui est un petit peu trop isolé. Et aujourd'hui, la communication, c'est les réseaux sociaux, c'est se faire connaître, c'est démarcher, il y a la concurrence. Et il faut pas le négliger. La concurrence, est, évidemment, il faut se démarquer. Hein, il faut se démarquer. Un des risques aussi qu'on a qu'on observe chez les entrepreneurs, c'est un petit peu de mélanger, comme on a le droit d'avoir un compte commun pro-perso. Souvent, on a des entrepreneurs qui mélangent un petit peu leur comptabilité et puis qui finalement, quelque part, dépensent un petit peu trop de ce qu'ils devraient. Et au moment où les cotisations passent, il n'y a plus.
Voilà. Alors, je voudrais juste revenir avec vous sur la deuxième raison, quand l'entrepreneur est dépassé et que à ce moment-là il vient vous voir, vous arrivez quand même à redresser la barre à ce moment-là, ou c'est très complexe.
On en a déjà redressé quelques-uns,
ouais.
Mais on les prévient d'abord. Redresser, c'est du temps. C'est du temps de travail parce qu'il faut aller rechercher sur les plateformes ce qui s'est passé. Il faut reconstituer l'histoire.
C'est comme une enquête où on va chercher tous les éléments,
voilà,
pour voir où ça a failli. En fait.
Où ça a failli. Il faut être. C'est un vrai partenariat, par contre, avec l'entrepreneur, parce que lui, il va aussi devoir partir chercher dans son passé tous les petits papiers sur lesquels il a écrit, les papiers, ouais, fanés un peu partout.
Mais ces gens-là, ils sont prêts à coopérer ou à participer, ou bien ils se disent bon, maintenant je délègue tout et débrouillez-vous.
Ah non, ils savent bien que
il faut le partenariat, la coopération, les échanges.
Parce qu'il y a des éléments. Pas là à l'époque.
C'est ça.
Donc on va leur poser plein de questions, on va leur demander plein de papiers. Si, quand ils viennent à nous, ils savent que ça va être un binôme qui se crée, hein, un binôme.
D'accord. Donc d'emblée, ils savent, ils viennent avec vous. C'est un binôme, c'est un partenariat, c'est un travail commun sur plus ou moins un certain temps.
Oui, ça dépend de l'antériorité. Et puis, ça dépend de ce qui est disponible, de ce qui l'est pas aussi. Et puis aussi, il faut dire que à partir du moment où on va régulariser une situation, c'est-à-dire qu'on va faire les déclarations, par exemple, qui n'ont pas été faites, les déclarations du chiffre d'affaires, il va y avoir tout un tas de régularisations, de cotisations. C'est-à-dire que la personne qui fait cette démarche sait qu'elle va devoir régulariser ce qu'elle n'a pas payé au moment où elle aurait dû.
Et ils sont conscients de ça ou ils se disent...
Si, ils sont conscients. Quand ils viennent à nous, ils sont conscients.
C'est-à-dire, quand ils viennent jusqu'à vous, ils sont conscients qu'il y a des choses à faire et que d'une manière ou d'une autre, S'ils veulent garder leur entreprise, oui, il faudra s'y mettre.
Il va falloir régulariser et que ça va être donc des sous à sortir, s'ils en ont conscience. Après, nous, on essaye d'obtenir des échelonnements, voilà, des échéanciers pour que ça les oxygène le plus possible. Mais ça, ils savent qu'il va y avoir une période un peu difficile financièrement, bien sûr.
D'accord. Tout à l'heure, on parlait aussi du compte commun. Un compte commun peut être une difficulté pour un entrepreneur ?
Oui. Alors, les auto-entrepreneurs ont le droit d'avoir un compte bancaire commun pour leurs dépenses personnelles et professionnelles. Et leurs recettes aussi. C'est un droit. Sauf si deux exercices d'affilée, ils ont eu plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires.
Hein ?
Voilà. Mais c'est un piège. C'est très dangereux.
Pourquoi c'est un piège?
C'est très dangereux parce que on a tous la même vie, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on va avoir les réparations de la voiture, le micro-ondes qui casse, les dépenses pour les enfants, et donc quand c'est sur ce même compte qu'on va avoir besoin pour sa vie, c'est ce compte sur lequel rentrent les recettes de l'entrepreneur, mais c'est aussi là que vont être prélevées les cotisations. Ça demande une sacrée rigueur pour qu'au moment où l'URSSAF prélève, l'argent soit là.
Très bien. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de notre interview, Madame Stéphanie de Néo. Oui, ben justement, en fait, la petite question qui vient. Alors, vous travaillez aussi avec les associations. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les associations, justement ?
Bon, on a déjà parlé de la phase de création, donc aider le procès verbal, etc., et aider à la rédaction des statuts. Mais après, cette association, elle a une vie. Elle a une vie qui est portée par une gouvernance. D'accord ? Minimum deux personnes, un président, un trésorier ou un président, un secrétaire. Et elle doit donc porter son projet collectif. Et parfois, les gouvernants associatifs ont besoin d'aide, soit sur des aspects, par exemple, le versant employeur, s'ils ont besoin d'embaucher. Et donc là, d'un seul coup, c'est un métier, là aussi, la RH. Donc, poser le cadre réglementaire, leur expliquer quelles sont leurs obligations, etc. Ou tout simplement, pour leur vie de gouvernance, comment on fait une assemblée générale, comment on fait une convocation, un procès verbal, quelles sont les responsabilités d'un dirigeant associatif.
D'accord, c'est-à-dire que pour les associations, vous les accompagnez.
C'est du conseil.
C'est du conseil, et vous les accompagnez dans les actes de base de l'association, du domaine associatif ou du dirigeant associatif.
C'est ça. Ça peut être un montage de dossiers de subvention, par exemple. Ça peut être mettre en place une dynamique autour du bénévolat. Comment on accueille un bénévole, comment on le forme, comment on trace le bénévolat. Ça peut être tous les éléments, tous les ingrédients de la vie associative peuvent avoir besoin de conseils.
D'accord. Pourquoi avoir choisi ces domaines ?
Ah ben c'est histoire personnelle.
Oui, c'est votre histoire.
Oui, c'est notre. Alors notre parce que on est une société familiale.
D'accord.
Donc derrière, parmi les actionnaires, il y a tous mes fils, toutes mes belles-filles, mon mari. Enfin, c'est une grande famille qui est derrière. Et c'est avec ma belle-fille qu'on est sur le terrain et toutes les deux. Alors moi, j'ai eu un long parcours de gestion et de direction d'associations. Voilà, j'ai aussi les qualifications, un master spécialisé pour association. Et sur la partie des micros, c'est parce que pratiquement tous mes fils et toute la famille est en micro. Et puis, ça fait des années de gestion et qu'on s'est dit que dans les deux domaines, de ces petites structures qui souvent manquent de fonctions support pour les aider à mettre en place leur savoir-faire, eh bien, si dans notre ancienne vie de salarié, on a côtoyé des gens qui en avaient besoin, ça veut dire que d'autres aussi en ont bien besoin, au-delà de la famille. Voilà.
Parfait. Stéphanie de Néopal, notre interview arrive tranquillement à sa fin. C'est avec plaisir j'ai été content de vous recevoir. On s'est déjà rencontrés dans d'autres situations, justement, et c'est un plaisir. Spécialement aujourd'hui pour la fête de la radio. Voilà, donc on vous souhaite bonne continuation.
Merci.
Et un maximum de soutien, d'accompagnement et de conseils pour toutes les personnes qui vont en avoir besoin.
C'est ça. Ben, n'hésitez pas. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est un privilège. Merci à toute l'équipe. Et que tous les rêves de chacun puissent se réaliser.
Que tous les rêves de chacun puissent se réaliser. Sur cette belle phrase, nous terminons cet entretien. Merci beaucoup.
Au revoir.